Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Crochet de Dembélé, la frappe de Dembélé, ouais, et le but. Loué, deuxième but pour l'équipe de France, Ousmane Dembélé qui fait le break.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
Olise, 18h tout pile sur RMC. Bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. Un Roten sans flamme, là pour de bon, exceptionnel. Demi-finale de la Coupe du Monde, France-Espagne, c'est à 21h en intégralité, comme tous les grands matchs sur RMC. Donc ne quittez pas l'antenne. Vous venez d'arriver, appelez vos amis, on sera encore plus nombreux. Nous, on est là jusqu'à 20h comme tous les soirs. Une grande émission, vous allez tout savoir sur ce France-Espagne. On va même jouer aux magiciens. Les boules de cristal sont sorties et on va tout vous annoncer ce qui va se passer. On est avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ah Benoît.
Ah bah on y est, ça y est, demi-finale. On dit que c'est tout droit depuis 6 mois. C'est l'avant-dernière étape, donc on est surexcité.
Ouais, pas de sortie de piste, hein, surtout.
Ah non.
Non, non, on vous fait confiance. Il y en a qui, lui, il a jamais fait des sorties de piste. C'est Christophe Dugarry. Salut Dugarry.
Salut les copains, qu'est-ce que je suis
salut
content.
Salut les
gars. Je suis content, depuis ce matin, je me suis levé. J'ai le smile, on dirait un gosse.
Ah, ça y est.
Hâte de voir ce match. Ah oui, ça y est.
Non, mais là, je suis content, je te jure, je suis tout excité, je suis ravi. Vraiment, ça va être, ça va être un gros match.
Écoute, bah, les Marocains doivent être contents de t'entendre. Tu les as sortis en plus en quart de finale. Voilà, bon. On est avec le dinosaure, obligé de le sortir. C'est lui
légende.
Qui a monté tous les matchs depuis 66. Et la dernière victoire de l'Angleterre, c'est Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Mi.
Bonjour messieurs.
Salut, capitaine.
Allez les Bleus, allez la France.
Voilà. Salut Jean-Mi.
Ça va Jean-Mi?
Très bien, très bien. Très bien, bon. je suis excité, mais à mon âge, un petit peu moins que Christophe. Ouais.
Et Jean-Mi, tu
mais
sais
c'est
que
un petit peu normal.
C'est pas sûr.
c'est pas sûr.
Pourtant, il y a une différence d'âge.
Ah ouais, non, mais
Non, mais Jean-Michel, tu sais que pour préparer cette émission, on s'est refait le France-Espagne 2006, le 8e de finale. Tu avais été exceptionnel au commentaire. Ah bravo. Alors là sur le but de Zidane,
encore,
le troisième
encore une
but,
fois exceptionnel.
Ah franchement là c'était du grand Jean-Michel Larquet quoi.
Non
là.
Mais c'était normal pour moi. J'attends, je vais jouer les modestes. Non mais j'étais pas
comme petit ça, côté Roten chez Jean-Michel Larquet apparemment.
Voilà. Moi je l'ai. Moi,
il a déteint, c'est fou ça.
Ça y est.
Moi je me suis refait le match France-Allemagne de 82.
Ah ouais bah voilà, non.
Avec Jean-Michel, il était un petit peu moins inspiré. Il
avait pas son petit peu mal. 2006, si je me souviens, le sélectionneur Luis Aragonés avait réussi quand même à nous mettre en attaque de l'équipe d'Espagne, trois attaquants centraux, trois avant-centres.
Oui, exactement.
Comme je me souviens. C'était un peu ça, voilà.
Et, il y avait Raoul et David Villa, notamment, tout à fait. Et Fernando Torres, d'ailleurs. C'est l'attaque de.
Voilà,
trois
avant-centres, oui.
Ouais. Donc c'est le grand jour sur RMC, Roten sans flamme exceptionnel en direct de la brasserie Flora dans le 9e arrondissement de Paris. La demi-finale de Coupe du Monde, France-Espagne, RMC la radio officielle de la Coupe du Monde. Olé, olé, nous serons partout ce soir, nous irons à Dallas dans un instant, on sera partout en
méfie-toi.
France, on sera en Espagne.
À vouloir être partout, on est nulle part, fais gaffe, ouais. Attention, concentre-toi. C'est sur la, le jeu, attention, ne te disperse pas mon poulet.
Il y a des grands débats d'ailleurs avec des grands consultants. Roten se chauffe à 19h, c'est là que je vous attends au tournant. Dugas, Jérôme, Jean-Michel. Comment neutraliser Lamine Yamal? C'est lui qui nous fait peur ce soir. C'est la star de l'équipe d'Espagne. Il a une
à la régulière
un
ou...
peu... Ah bah, ce que tu veux. Trouve une solution, c'est tout ce que je te demande. Ah, okay. Rendez-vous 19h, on vous attend 32-16. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, adversaire direct, t'imagines ça.
Ouais, sauf que là, c'est Lucas Ding, donc ça sera forcément à la régulière.
Un crossover très sympa à 18h45 à Allo Jérôme. On va passer un coup de fil à un coureur qui est sur le Tour de France en ce moment. C'est Benjamin Thomas. Il est même champion olympique de cyclisme sur piste. Il vient de terminer la 10e étape. Il sera avec nous pour nous raconter
arrivé,
comment.
Ça va, s'il est
il est arrivé, bien sûr.
Il vient de terminer, ouais, avec une heure et quart de retard sur Pogacar.
Pogacar s'est encore imposé. Mais il a attaqué en début d'étape, donc il va pouvoir.
Il a attaqué, ouais. Dans le premier kilomètre, il était devant.
Voilà. Vous voyez que nous, on sait accueillir les invités. En tout cas.
Mais non, mais on plaisante.
Non, on est ravis de l'avoir. Il est au sein de l'équipe Cofidis et il a deux partenaires espagnols. Donc il va nous raconter comment ça va se passer dans l'hôtel des Cofidis ce soir pour cette demi-finale France-Espagne. Et puis un procès. Est-ce que vous savez qui est l'accusé du soir? C'est Jérôme Roten, l'accusé du soir. On n'a pas supporté ce que tu as dit hier. Toi, tu penses que les Bleus auront du mal à rivaliser au milieu de terrain. Tu vas te faire attaquer et par Christophe Dugarry
Ah, et enfin, depuis le début de l'année, on a envie d'attaquer, on ne pouvait pas, on nous interdisait à chaque fois. J'ai même pensé de Jérôme, mais non, on nous disait non, la prod, c'est pas possible, oui, c'est le boss, ouais, c'est le patron. Alors, il va bloquer l'antenne et tout. Ah, enfin, ça y est, on va pouvoir se lâcher.
Ouais, ouais, comme quoi, vous êtes libre. Hein.
On le fait parce que vous voulez. Du gars, on le fait parce qu'il reste trois émissions, surtout.
Ouais. C'est surtout ça. On risque plus rien, c'est ça.
Ouais, vous risquez plus rien, puis moi aussi, de toute façon. Alors, comme ça.
Allez, commençons à prendre la température dans les rues de Paris, dans le 9e arrondissement, à quelques encablures de la brasserie Flora. On va retrouver Pierre Thévenet qui est avec des supporters. Salut Pierre.
Salut Pierrot. Salut Benoît, salut à toutes et à tous. On est en terrasse d'un bar, l'Atlantique, avec le patron Olivier qui est en train de courir partout pour essayer de caler tout le monde sur cette terrasse. Combien de personnes nous attendaient ce soir? Est-ce que c'est une énorme soirée à venir?
Ça va être une énorme soirée, une très très grosse soirée. On va faire mieux qu'en 2018. Je sais pas quoi dire, mais ça va être impressionnant.
Et dites-vous, pour les quarts de finale ici, il y avait des gens qui s'étaient assis par terre aussi, un peu partout autour des écrans géants qui ont été installés. Il y a beaucoup de maillots de l'équipe de France, évidemment, Jérôme, t'imagines bien. Mais il y a un petit intrus, c'est Reda qui a sorti le maillot de l'Espagne, qui a osé le maillot de l'Espagne en terrasse. Reda, explique-nous pourquoi. Est-ce que t'es espagnol ou pas du tout?
Je suis pas du tout espagnol, mais je suis pour Lamine Yamal.
Lamine Yamal ou les Bleus. Qu'est-ce que tu choisis entre les deux? Est-ce que tu préfères une victoire des Bleus ou une grosse performance de Lamine Yamal?
Grosse performance de Lamine Yamal.
Et à côté de lui, à côté de Reda, il y a sa femme, Joanne, qui, elle, a un maillot de l'équipe de France, est partie acheter le drapeau aussi. Qu'est-ce que tu penses de l'attitude de ton mari, Reda?
Je pense que c'est une attitude déplorable, mais j'y ai remédié. Je lui ai aussi pris un drapeau de la France pour cacher son maillot une fois qu'on aura gagné.
Voilà, Joanne est allée acheter le maillot pour Reda, évidemment, et tout bar et tout Paris, bien sûr, sera derrière l'équipe de France ce soir.
Allez, merci Pierre.
Merci Pierre. Surtout à chaque but, il va prendre une pinte de bière sur son maillot.
Ça va être pour lui,
je crois.
Il s'est mis un peu à l'écart.
Il va vivre une soirée compliquée.
J'espère pas 3-4 buts pour la France, parce qu'autrement, il va être trempé, je te le dis.
Exactement. Allez, 18h07 sur RMC, Rotten sans flamme. C'est parti, Jérôme. C'est le grand soir pour les Bleus.
Rêver un impossible rêve.
Je vais vous faire part de sentiments. Ce que j'espère très sincèrement, c'est de vous voir heureux.
Zinedine Zidane,
et si
elle magnifique, au bout.
Eux, ils sont pas prêts comme vous, les mecs. Je peux vous assurer que dans leur tête, ils sont persuadés qu'ils sont déjà qualifiés.
On est vraiment concentrés sur nous, ce que nous, on doit faire.
S'ils marquent un but, c'est fini. Il n'y a rien qui est fini, les mecs.
Allez, et c'est logique que l'Espagne aille chercher sa demi-finale.
Marquer des buts, vous en marquerez. Vous en êtes capable.
Telle suivre l'étoile.
La frappe de Dembélé, et le but.
On dit toujours que le meilleur est à venir. Vous méritez de connaître le meilleur.
On a envie vraiment de rendre les Français fiers.
Alors soyez forts, tous ensemble, pour connaître le bonheur.
C'est fini. L'équipe de France est en quart de finale. Eh ben chapeau les Bleus.
Vous avez commencé à écrire une grande histoire. J'espère que celle-ci, elle deviendra extraordinaire.
On voit vraiment beaucoup d'engouement et ça nous fait chaud au cœur.
Dans leur tête, ils sont pas prêts à faire la bataille. Vous êtes prêts. Faites-leur subir.
Alors soyez forts, tous ensemble, pour connaître le bonheur.
Pour atteindre l'inaccessible étoile.
RMC Intégrale Coupe du Monde.
C'est la plus belle affiche depuis le début de la Coupe du Monde. France-Espagne. Ah ouais, quelle production sonore, bravo à notre réalisateur Antoine. À notre producteur Nicolas Drouin.
Antoine, on a le meilleur.
Ah bah c'est les meilleurs. Les deux, la doublette est magique. Ouais. On a hâte de le voir, ce France-Espagne, les Bleus qui visent une troisième finale de Coupe du Monde consécutive. Et on a déjà les infos concernant la composition d'équipe grâce à Fabrice Hawkins à Dallas. Salut Fabrice.
Salut Fab.
Salut à tous.
Eh oui Fabrice, tu as déjà dégainé les infos. Bonsoir. On connaît a priori la compo des Bleus pour ce soir.
Oui, effectivement, c'est le même 11 a priori donc face à la Suède. Hein. Je vous dis a priori, mais c'est quasiment du 100%. Mike Maignan dans les buts, évidemment. La ligne de 4 avec Jules Koundé à droite, à gauche, Lucas Digne. En défense centrale, on va retrouver Dayot Upamecano et William Saliba. Il y avait un petit doute sur Aurélien Tchouaméni. Il va bien tenir sa place aux côtés d'Adrien Rabiot. Toujours l'alternance à gauche, puisque Doué était titulaire face au Maroc. C'est bien Barcola qui va démarrer face à la Suède. Il sera accompagné évidemment d'Ousmane Dembélé, de Michael Olise en meneur de jeu et de Kylian Mbappé en attaque.
Merci Fabrice.
C'est toute la compétition. On s'est posé la question sur Doué ou Barcola. Et
c'est fou. Hein. Ah, c'est dingue.
Il a alterné.
Ah ouais. Ah ouais, tu vois, bah, c'est... Alors avant de lancer le débat, est-ce que vous êtes surpris de voir Bradley Barcola titulaire face à l'Espagne, Jérôme?
Non, pas surpris. Et d'autant plus, et on en parlera tout à l'heure à 18h30, mais d'autant plus que qu'on entend Didier Deschamps hier en conf de presse et qui te dit beaucoup de bonnes choses sur l'Espagne et que l'Espagne est favori. Et que ceci, cela, forcément, il a été obligé de faire en sorte que les points forts espagnols soient pas bloqués, parce que tu peux pas bloquer tout le monde, mais le côté droit où il y a Yamal qui joue, bah, un joueur qui va jouer devant Lucas Digne, qui est plus propice à défendre sur la largeur sur la longueur du terrain que Doué, donc je suis pas surpris. Il fonctionne comme un milieu gauche Barcola quand l'équipe de France n'a pas le ballon, et c'est vrai qu'il fait beaucoup d'efforts. Alors après, est-ce que c'est toujours ça reste un point fort pour Barcola? Non. Parce qu'il déjoue un petit peu quand il fait ça, qu'il n'a pas encore tous les repères d'un milieu gauche, mais n'empêche que il les fait, et au moins ça aura le mérite de faire un 2 contre 1 avec Yamal.
Duga, t'es surpris toi de voir Barcola notamment?
Non, et puis il va prendre la profondeur, il va faire mal dans le dos du latéral droit espagnol aussi, donc non, moi j'ai pas de problème avec ça, les choses sont parfaitement claires entre eux, en plus ces deux copains, ils s'entendent bien, il n'y a pas de rivalité, il y a juste l'envie de succéder à son copain pour apporter quelque chose d'encore mieux à l'équipe, donc voilà, l'état d'esprit est irréprochable, les deux ont des atouts dans leur manche, c'est deux super joueurs, je trouve que le choix de Deschamps est intéressant et justifié pour le coup. Voilà,
moi j'ai pas Jean-Michel.
Un choix fort quand même, un choix fort, ça veut dire que même si Doué a d'énormes qualités, celles de Barcola sont différentes. D'un côté, on a la qualité technique et l'activité presque d'un milieu de terrain. De l'autre côté, d'un attaquant, d'un puncher, il a choisi la seconde possibilité. Moi, je trouve que c'est gonflé, et ça prouve un petit peu aussi la confiance de Deschamps. J'espère que cette confiance va rejaillir sur l'équipe. Mais il me semble que c'est un choix offensif. Voilà.
On l'a dit depuis le début de la compète, elle nous régale cette équipe de France. Elle est là où elle voulait être. Elle est là où on voulait qu'elle soit. C'est donc la une de Rotten sans flamme. C'est le débat qu'on vous propose. On vous attend au 32-16. Est-ce que la Coupe du Monde des Bleus se joue ce soir? Est-ce que tout va dépendre du résultat de cette demi-finale, Jérôme?
Ah bah, bien sûr qu'elle se joue ce soir. Si tu veux gagner la Coupe du Monde, si tu perds ce soir, t'es dehors. Donc elle se joue. Donc ça veut dire que tu l'as perdue.
Donc elle est ratée, cette Coupe du Monde, si tu perds ce soir?
Bah, elle est ratée d'un point de vue du résultat, oui, elle est ratée. T'auras pas gagné, c'est un objectif. Tout le monde et les joueurs eux-mêmes se sont pas cachés, ont même été très loin dans certains discours. Je me souviens de Cherki sur les matchs de préparation qui dit on n'y va pas pour gagner, mais contre tout le monde, mais pour écraser tout le monde. Donc, on sait très bien que l'objectif, et on l'a encore vu sur pas mal de discours en interne. On a eu quelques fuites. L'objectif, ils sont tous en mission, ils te le répètent tous, même le staff le répète en mission. J'ai vu Cyril Moine qui parlait avec Dembélé sur un vélo. Dembélé est en train de faire un vélo
du fourni par la
et voilà, et il lui dit ça va Ousmane, ouais, toi t'es en mission, on est en mission, voilà. Donc il se répète le mot mission, donc si t'es en mission, c'est que tu veux gagner la Coupe du Monde. Donc il faut aller en finale. Après, on sait très bien que la finale, c'est un match particulier avec tous le contexte qu'on connaît sur les grandes finales. Écoute, t'es jamais sûr d'être à ton meilleur niveau, mais là on parle d'une demi-finale. Et à partir de là, le résultat est très important. Et dans nos analyses, il faudra pas le mettre de côté. Le résultat est bien plus important que tout le reste.
Bien sûr.
Après, c'est pas parce que tu gagnes que tout est parfait. On est d'accord. Mais quand tu perds, en général, il y a beaucoup de négatifs, et ce qui me paraît logique. Donc c'est très clair. Ta réponse, elle se joue là, la Coupe du Monde ce soir.
Jean-Michel, tu es d'accord avec ça, toi?
Bah, chaque jour suffit sa peine. Et puis, tu sais, il y a la phrase type, le cliché, on prend match après match. Mais si tu ne gagnes pas ce soir, il n'y aura pas d'autre match. Hein.
Donc,
il y en aura un, mais pour la troisième place.
Ouais, enfin, oui.
Génial.
Les chocolats. Et de toute façon, on sait pertinemment que le match, la Coupe du Monde se joue ce soir, comme elle s'est jouée, c'était jeudi soir contre le Maroc. C'était jeudi ou vendredi?
Jeudi,
c'était de la même manière, Benoît. Je ne pense pas que tu puisses. Aujourd'hui, il est évident que Didier Deschamps, dans sa causerie d'avant-match, il ne va pas évoquer une seule seconde ce qui va se passer lors de la finale. Il ne va parler que du match de ce soir, parce que évidemment, c'est celui qu'il faut gagner. Bien évidemment. Donc, dire.
Oui, mais est-ce que si on est en finale, c'est réussi? Parce que ça fait partie du débat aussi.
Attends.
Déjà,
ouais. Je te dis, chaque jour suffit sa peine. Mon petit Benoît, je sais que tu tentes le 2-30.
On refera un débat, demain on refera un débat.
Vendredi,
on le fera.
Tu tentes les 2-30 au marathon, mais avant les 2-30, descends au-dessous des 2-40, tu vois.
Mais il n'y arrive pas.
C'est pas gagné.
Ben oui, c'est pour ça que je te donne cet exemple-là. Et aujourd'hui, l'équipe de France ne prépare qu'un match, c'est cette demi-finale. Dieu sait si elle est importante, Dieu sait si l'adversaire est prestigieux, Dieu sait si cet adversaire nous a causé des soucis ces dernières années. Bon, ça fait suffisamment de choses pour ne s'intéresser qu'à ce match.
Qu'à ce match. Exactement.
Duga, toi, ça t'a un peu énervé quand je t'ai proposé le débat ce matin.
Non, mais je comprenais pas la question. Je comprends pas ce que ça veut dire. C'est ta question en définitive. Est-ce que c'est là que se joue en demi-finale une Coupe du Monde? On est l'équipe de France. Les mecs sont d'une ambition démesurée et à juste titre. L'entraîneur, les Français, tout le monde a envie de est venu jouer cette compétition pour la gagner. Ça y est, on est l'équipe de France. On est dans le top 3 UEFA mondial.
On est même la première nation que la FIFA.
Non, mais voilà. Toutes les compétitions, tu les joues pour les gagner. Bien évidemment que ça ne satisfera personne. L'objectif, c'est de gagner. Si tu ne gagnes pas, ce sera un échec. L'objectif, c'est de gagner la Coupe du Monde. À partir du moment où tu ne gagnes pas, c'est un échec. Alors après, tu peux toujours mesurer l'échec, l'expliquer, le comprendre, faire comme tu veux, on verra bien. Et dans l'absolu, peu importe, parce qu'en plus, Deschamps ne sera plus là après ça. Donc voilà, il n'y a qu'une chose qui compte. Deschamps, il ne sera pas après la compétition ou après une demi-perdue ou une finale perdue. Il ne sera pas dans l'analyse de voir comment elle s'est perdue, comment ci, comment là. Ça sera la place à quelqu'un d'autre. Donc voilà, aujourd'hui il n'y a qu'une réalité qui compte et qui anime les joueurs, c'est gagner. Donc la Coupe du Monde, elle se jouera le soir de la victoire et l'objectif sera accompli et rien d'autre n'anime les joueurs. Il n'y a aucun joueur qui aujourd'hui se dit une finale ça suffira, ou même une finale, si on est en finale l'objectif sera rempli. Mais c'est quoi c'est cette petite façon de penser, cet esprit
étriqué? Non, mais tu penses pas que les observateurs, les fans de foot vont se dire on gardera en tête le beau parcours des Bleus, la belle image, les
observateurs, mais les observateurs ne prend pas l'arrière antenne du Gary comme consultant. Si tu veux des observateurs, prends pas des anciens joueurs. Nous, tu nous parles d'un truc qui n'existe pas, qui ne veut rien dire. Toute notre vie, on a essayé de gagner des matchs et des titres. Donc là, tu nous dis, est-ce que ça vous suffit d'arriver en demi-finale ou en finale? Mais on n'est pas le tour de Sixte le dimanche avec les copains pour gagner une télé ou un radio.
Philippe
ou
Diallo avait dit, c'est l'objectif. Hein. Il avait dit quart de finale.
Oui, mais Diallo, il est comme toi, c'est un observateur. Diallo, c'est pas un acteur du football. Il peut pas comprendre ça ou je sais pas. Ou alors c'est de la com. Je sais pas ce qu'il veut dire. Je comprends pas. Et ça m'intéresse pas ce qu'il veut dire.
Regardez surtout le bilan financier.
C'est un politique.
C'est ce qui l'intéressait. Voilà.
Kylian Mbappé l'avait repris dans la foulée, d'ailleurs, quand Philippe Diallo avait expliqué que l'objectif c'était de rentrer dans le dernier carré. Kylian Mbappé avait évidemment dit tout de suite non, l'objectif c'est de gagner. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en allant en demi-finale, on a réussi la Coupe du Monde.
Exactement. En plus, Mbappé l'a dit, on a fait une finale, on a gagné, très bien. La demi-finale, on est vice-champion, mais celle-là, elle compte pas. Et là, c'est la troisième, on va gagner. Même lui, il te le dit, il a été vice-champion du monde, il se dit, mais ça compte pas, on s'en fiche, on retient que ceux qui gagnent.
Le reste, on s'en tape.
Ça n'a aucun intérêt.
Surtout, du gars, d'autant plus que pour te répondre, Benoît, on n'est plus dans les années 80. C'est dans les années 80, on se souvient à juste titre, parce que moi ça m'a marqué, j'étais gamin, mais certainement vous aussi, en 82, comment on s'est fait éliminer contre l'Allemagne, en 86, comment on s'est fait éliminer contre l'Allemagne.
En 82,
on n'a pas le même statut à l'époque.
En 82, on arrivait de nulle part. Moi j'étais de la génération avant, et quand on gagnait un match, c'était un exploit. Je me souviens avoir une fois battu l'URSS 1-0 au Parc des Princes. T'avais l'impression qu'on était champion du monde.
Eh ben oui.
on gagnait un match tous les 36 du mois.
Mais c'est pour
donc,
ça.
On était dans une autre époque.
Mais oui, on était dans une autre époque, on n'avait pas la même analyse, et forcément, comme tu l'as dit, quand tu as la sensation de gagner un match ou de passer un tour et que ça soit un exploit, bah, automatiquement, que tu t'arrêtes en demi-finale, tu peux avoir, à l'époque, en 82 ou en 86, dire, oh, l'équipe de France, franchement, voilà. On s'en souvient. Mais aujourd'hui, on s'en souvient pas. Ouais. On s'en fout. Ils sortent aujourd'hui. Regarde depuis 98, depuis l'époque de Duga. En 98, regarde toutes les, à chaque fois qu'on n'a pas été jusqu'au bout, automatiquement, il y a eu beaucoup de critiques à juste titre en 2002. Ah, après,
ça,
il y a eu.
Rien du tout.
Après, il y a eu. En fait, nous, quand on se casse la gueule, de toute façon, c'est.
Ah, pas toujours.
C'est, non, mais quand on n'a pas de bons résultats, qu'on se fait sortir, il y a toujours beaucoup à juste titre de critiques. En 2002, en 2010 avec Nice-Na, bon là, on avait touché le.
Oui, après 2014, les sommets. C'était particulier.
Non, mais 2014, on était en reconstruction. Ouais. Donc, en 2014, si tu veux, ta question là d'aujourd'hui, on aurait pu l'accepter. Une demi-finale, est-ce que c'est déjà réussi? Ouais. Bah oui, avec 2010 qui s'est passé à Nice-Na, on aurait dit, oui, on n'est pas complètement con, on est passé par là, on est des compétiteurs. Mais quand tu démarres la compétition, t'avais pas comme objectif de gagner absolument la Coupe du Monde. Depuis 2018, toutes les Coupes du Monde, l'objectif, c'est de la gagner. Donc on s'en tire bien, on a fait deux finales. Et on en a gagné une, on a perdu une. Bon, ok, bah là, celle-là, en effet, si tu fais pas une finale, bah, on parlera comme une compétition qui restera pas dans les annales.
Il y a une stat folle pour une grande équipe comme l'Espagne, seulement la deuxième demi-finale de l'histoire des Espagnols. Oui. La seule qu'ils ont disputée, c'est quand ils sont allés au bout. C'est fou.
Je pense que ça ira même plus loin. Excuse-moi, capitaine. Ça ira même plus loin. Moi, je pense que si tu gagnes pas la Coupe du Monde, ça sera considéré comme un échec parce que les gens auront le souvenir d'une équipe incroyable avec une attaque de feu.
Mais qui a pas gagné.
Mais qui a pas gagné. Donc, je pense que la Santa, ce sera encore plus dur parce que t'es beaucoup plus, entre guillemets, indulgent dans la défaite ou le non-objectif atteint et tout ça avec une équipe qui est moins forte. Là, l'équipe est tellement. Paraît tellement au-dessus de tout le monde que tu te si gagne pas ça va être un terrible échec, un terrible désaveu.
Un grand merci à Fabrice Hawkins en direct de Dallas. Fabrice, on reste connecté. Il y a une info qui tombe, tu lui la donnes. Bah, il a déjà fait le plus gros du travail. Il a sorti la compo.
Le chapeau de cowboy que tu as là.
Ah, ça lui va bien, Fabrice, le chapeau de cowboy. Tout à fait. Merci, Fab.
Mieux qu'à Jean-Louis, toi.
Allez, 18h22.
Jean-Louis, ça lui a arrondi un peu le visage.
Jean-Louis, ça lui va bien aussi, le chapeau de cowboy. On a une équipe avec des têtes à chapeau. Arthur Perrault, Florent Germain.
Pas que le visage qui arrondit.
Arrêtez de l'attaquer. Il est affûté en cette fin de compte.
Mais c'est pas bien. Tous les messages que je reçois d'Arthur et tout ça, ils sont avec lui. Non, il n'y a pas.
Jean-Louis, ce n'est qu'un muscle, Jean-Louis.
C'est ça. Exactement. Dans un instant, on ouvre le procès de Jérôme Roten. Jérôme qui pense que les Bleus auront du mal à rivaliser avec le milieu de terrain espagnol.
Méchant.
Allez, à tout de suite.
C'est moi le méchant, hein.
Ouais.
C'est nous les méchants.
RMC, 18h-20h. Roten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
La bonne passe pour Mbappé. Kylian Mbappé ne doute jamais.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h27. On est bien dans Roten sans flamme en mode Coupe du Monde, en mode match exceptionnel, demi-finale de Coupe du Monde à 21h. Tout à l'heure, France-Espagne, on va se régaler. On se projette sur ce match déjà. Vous avez connu, et on vous la rappellera dans l'émission, la composition d'équipe de l'équipe de France. C'est important. Un choix fort, Barcola qui sera titulaire à la place de Doué. Sinon, c'est les mêmes. Tchouaméni reprend sa place à la place de Manu Koné. On est avec Benoît Boutron, on est avec Jean-Michel Larquet et Christophe Dugarry. Dans 15 minutes, on aura un coureur du Tour de France.
Benjamin Thomas, coureur Cofidis. Comment le peloton du Tour va suivre cette demi-finale France-Espagne chez Cofidis?
Comment il récupère devant, parce que bon, il faut se taper les étapes.
Victoire de Tadej Pogacar en solitaire aujourd'hui. La belle perf de Paul Sexas qui termine troisième. Benjamin Thomas, coureur Cofidis. Il y a deux Français dans l'équipe, il y a également deux Espagnols. Donc il va nous raconter comment ça se passe au sein
de la
Cofidis.
Guerre ou pas.
On va voir. Retrouvons tout de suite à Dallas Nicolas Pelletier qui est aux abords du stade où attendent les supporters des Bleus et Espagnols. Salut Nico.
Salut les amis, salut à tous. Bienvenue à Dallas. On est avec Justin devant ce stade magnifique de Dallas qui sera climatisé. Et Justin, il a la panoplie complète parce qu'il a le chapeau bien évidemment de cowboy. On est à Dallas, on est dans le Texas. Et Justin, comment on se sent là à quelques minutes d'un France-Espagne en demi-finale de Coupe du Monde. T'as fait tout le périple, hein. T'as suivi les Bleus partout, toi.
Alors, j'ai suivi les Bleus partout. On est excités, il y a un tout petit peu de stress, mais je pense qu'on est très confiants, là. On a une équipe imbattable, c'est les Avengers.
C'est l'Avengers, mais tu... Ah oui, là, on est hyper confiant côté bleu, Benoît. Tu les as suivis, comment ça se passe? Combien t'as payé tout ça? Comment t'as fait?
Alors, c'est cher, c'est très très cher. En plus, j'ai déjà pris le billet pour la finale. Mais non, on se fait plaisir. J'ai la chance que mon boulot à New York soit fermé l'été. Donc, je me fais bien plaisir, là. C'est une fois dans une vie.
Voilà, on est ici à Dallas. Oui, il faut les moyens, Christophe, pour venir.
Et t'as pas le montant, tout, Nico?
Combien t'as payé ta place ce soir?
Non, mais en tout.
Alors, aujourd'hui, j'ai eu de la chance, je suis passé par le club des supporters, c'était $900.
Ok, et combien t'as payé tout ton périple? C'est ça un petit peu une estimation?
En tout, je sais pas, 5 000 un peu plus, peut-être pour la finale, ouais.
Voilà, Justin qui ne vient pas de France, il habite à New York, donc ça réduit un petit peu
habite à côté.
C'est Justin qui a un magnifique maillot de Barthez. Sur ses épaules. Voilà. Et donc voilà, il est prêt. L'ambiance monte un petit peu doucement ici du côté de Dallas, un peu plus morose, bien évidemment, parce que l'autre fois, il y avait les Marocains qui mettaient l'ambiance avec les Français. Là, c'est Espagne-France. Donc, on est un peu plus distancé entre les deux nations. Mais voilà, ça commence à monter ici du côté de Dallas.
Merci, Nico. On te retrouvera régulièrement avant le coup d'envoi de ce match, 21h, France-Espagne. Et tout de suite, on va ouvrir le procès de Jérôme Rotten.
RMC, Rotten sans flamme.
C'est magnifique avec les pieds comme ça en canard, avec le cul qui débordait, le gros cul qui débordait. Robert Pires à droite, Jérôme Rotten à gauche. Et donc, le cul de Kim Kardashian, il avait ce con.
Le procès de Rotten sans flamme.
Non, mais ça va pas. Ça, non,
mais c'est pas beau. C'est l'IA, ça. C'est l'intelligence artificielle. C'est tout bidon, ça. C'est un fake.
Quelle honte.
Je connaissais pas.
Non, mais c'est honteux. Pardon, Jérôme.
Après, tu peux. Ouais, voilà, tu peux t'excuser, je les accepte.
Voilà, pardon,
je les accepte. Et puis on embrasse les Lewis Hamilton qui
C'est vrai qu'elle a un peu les joies enflées.
On passe ton gros cul aussi.
tu n'as pas aimé, Jérôme, cette comparaison?
Non, Lewis, ça ne lui dérange pas, hein, apparemment. Bon.
Bref, passons à autre chose. Revenons sur le match de ce soir. Comment va-t-on faire pour lutter face au meilleur milieu de terrain du monde? Ce sera l'une des clés du match ce soir. Ce trio Olmo, Rodri et Pedri ou Fabien Ruiz, il y a une incertitude pour le troisième titulaire au milieu de terrain. On a fait les stats, 65% de possession de balles pour les Espagnols sur leurs 6 matchs disputés depuis la Coupe du Monde, depuis le début de la Coupe du Monde. En moyenne, c'est 650 passes tentées. Et écoutez, c'est ce que pense Deschamps, la possession, ce sera évidemment l'enjeu majeur ce soir.
C'est un rapport de force. Après, vous connaissez les qualités, ou je vais vous les dire, de cette équipe d'Espagne. Évidemment qu'elle veut le ballon et la possession. Elle a une capacité à mettre beaucoup de pression. Hein? Et si elle a pris qu'un but, c'est parce que l'adversaire, le ballon... Et il a du mal à l'avoir et à se créer des occasions. Nous aussi, on est une équipe qui a, donc là, ça sera un rapport de force, qui a besoin du ballon et qui est capable de créer des problèmes à l'adversaire.
Alors Jérôme, on a commencé à en parler hier. Toi, tu crains que la perte Tchouaméni-Rabiot soit en souffrance face à ce milieu de terrain espagnol. Tu t'aurais été favorable à un changement tactique qui n'aura pas lieu, donc. Tu aurais aimé voir Koné intégrer ce milieu de terrain et sortir un joueur offensif. On va ouvrir ton procès ce soir, toi qui penses qu'on aura du mal à rivaliser au milieu. Et tu as deux procureurs face à toi. Jean-Michel Larquet, bonsoir.
Bonsoir.
Et Christophe Dugarry, bonsoir.
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 Bon, t'es assez grand pour te défendre, Jérôme.
Oui, oui.
Et c'est Pierre qui va rendre son verdict au 32-16. Salut Pierre.
Salut les gars, je suis prêt à juger tout ça.
Ah, magnifique.
Bonsoir Pierre.
Bon, Dugas, tu veux commencer? Tu vas. Ah bah j'espère. Oui. Au moins tu vas te faire un avis avec les plaidoiries. Vas-y Dugas, c'est parti.
Non, mais je partage pas du tout l'avis de Jérôme. Alors après, on n'a pas du tout la même analyse de la situation et surtout du rôle de Tchouaméni. Voilà, je pense que Jérôme fait une fixation sur Tchouaméni et comme il pense que Tchouaméni est un joueur qui n'a pas sa place en équipe de France et qui est pas suffisamment bon ou aussi bon que Koné, il a le sentiment qu'il faut lui mettre une béquille sur son côté. C'est-à-dire que la béquille gauche, ça sera Rabiot et la béquille droite, c'est Koné. Parce qu'attention, Tchouaméni est dangereux. Tchouaméni, c'est quand même un joueur de très haut niveau. Il a montré, il est le vice-capitaine, il est titulaire avec le Real Madrid, il vient de prolonger avec le Real Madrid, et je pense que Jérôme se fait une mauvaise analyse du rôle et des performances
de Tchouaméni. Après, moi, ça fait 14 ans que Didier Deschamps est là, ça fait 14 ans que j'attends de voir cette, alors peut-être pas 14 ans parce qu'elle n'a pas tous les ans la possibilité de donner un jeu offensif, mais ça fait déjà bon nombre d'années que j'estime que cette équipe de France, elle a moyen, au-delà de gagner des matchs, de nous faire plaisir également. Et j'ai appelé de tous mes voeux qu'enfin cette équipe de France puisse jouer avec une équipe offensive. C'est le cas aujourd'hui, elle nous régale, on prend du plaisir, je ne sais pas si elle va aller au bout, je le souhaite de tout mon cœur, je ne sais pas, mais quoi qu'il se passe aujourd'hui, l'identité de jeu de l'équipe de France restera à jamais écrite. Ça, les Avengers, les Français sont fiers, peut-être n'ont jamais été aussi fiers d'avoir cette équipe de France et les supporter. Donc voilà, moi je pense qu'on est arrivé à un point aujourd'hui, l'équipe de France ne peut plus reculer, elle a enfin franchi ce toit de verre, tu vois, où il fallait, où on opposait toujours et je me battais avec ça, où c'est soit on gagne, soit on joue bien. Non, mais on peut, voilà, on peut faire les deux et on est en train de montrer qu'on peut faire les deux, donc ça va être compliqué, attention, c'est loin d'être gagné, ça, c'est le plus difficile commence certainement, mais moi j'ai envie d'y croire depuis le début que les deux sont possibles, donc voilà, continuons comme ça et Deschamps ne changera pas parce que ça serait se renier, et je peux comprendre qu'en arrivé là après 14 ans de sélectionneur, il a enfin la possibilité de montrer qu'il est capable de faire jouer ses équipes avec de l'envie, avec du potentiel, avec de la qualité, que je pense qu'il se reniera pas, donc voilà, arrêtons avec cette lubie de vouloir faire jouer trois joueurs au milieu pour sous prétexte éventuellement de peut-être renforcer le milieu de terrain et peut-être aider l'équipe de France à gagner. On n'en sait rien. On ne sait pas si avec trois milieux de terrain, elle sera plus performante qu'elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des certitudes. Voilà, donc il faut continuer dans ce sens-là.
Incroyable. Jean-Michel Larquet va attaquer Jérôme Rotel et donc défendre Aurélien Tchouaméni. Ça, c'est fort.
Oui, non, mais je vais défendre Aurélien Tchouaméni et se renier et changer ses plans parce qu'on rencontre l'Espagne. Ce serait un aveu de faiblesse terrible pour Deschamps. Ça voudrait dire qu'il considère au départ que c'est lui qui doit s'adapter et non pas l'Espagne qui doit s'adapter. Moi, je veux bien que l'on présente. Il m'a interrompu là. J'étais bien parti.
Erreur 404. Ah ouais, mais... Allez, relance la machine, Jean-Michel.
Non, simplement, il me semble quand même que il joue pas à deux au milieu. Il me semble quand même que celui qui court le plus des trois, peut-être, c'est celui que vous citez pas, c'est quand même Olise. Et de l'autre côté, je veux bien que ce milieu de terrain soit, comment vous dites, stratosphérique. Oui, stratosphérique. Je vous signale quand même qu'au départ de la compétition, sur les trois qui jouent aujourd'hui, il y en a qu'un qui était titulaire, c'était Rodri. Parce que l'autre titulaire, c'était Pedri, et le troisième qui devait jouer, c'est Zubimendi ou Merino. Aujourd'hui, c'est bien la preuve que le milieu de terrain de l'Espagne, qui est certainement son point fort, on va pas les dénigrer, mais c'est pas le milieu de terrain qui a révolutionné le football espagnol. Et aujourd'hui, ce qui me fait le plus peur dans l'équipe d'Espagne, c'est plutôt sa qualité défensive que la qualité de construction de son milieu de terrain. Et rester fidèle à ses principes, c'est une forme de force de caractère. Et c'est ainsi que Didier Deschamps et l'équipe de France marquent son terrain.
Allez, Jérôme, vas-y, défends-toi.
Non, mais en fait, moi, j'entends les propos du gars et de Jean-Michel. Moi, c'est pas jouer contre nature. Moi, je dis pas que l'équipe de France doit se renier par rapport à ce qu'elle a mis en place depuis le début de la compétition. Mais je pense, par rapport à ce choix donc de Didier Deschamps, c'est assez contradictoire par rapport à son discours. C'est lui-même qui te le dit hier, l'Espagne est favori. On reste sur deux défaites en finale de l'Euro et à la Ligue des Nations. Moi, je pars du principe que quand tu joues une équipe qui va ressembler plus ou moins, alors pas par rapport à la finale de l'Euro, parce que ça fait deux ans et que l'Espagne ne joue plus avec Morata devant, par exemple, mais sinon, tous les autres joueurs, c'est quasiment les mêmes. Le milieu de terrain reste le même. Alors après, il y a l'incertitude Ruiz ou Pedri, en effet, mais Olmo avec Rodri, ça jouait déjà et ça continue à jouer. Yamal et Nico Williams. Bon, Nico Williams, on connaît, donc c'est Baïna là en ce moment qui joue. Ouais. Mais Nico Williams va rentrer. Donc en fait, ces joueurs-là, ils sont sûrs de leur force parce que ça fait plusieurs années qu'ils jouent ensemble.
Par exemple, ça pourrait être exactement le même milieu de terrain qu'en demi. Ouais.
Oui,
Rodri,
oui.
Ruiz, Olmo.
Non, mais de toute façon, c'est ça. Alors après, ils ont un mécanisme, cette équipe, et c'est pas que lié à cette génération. Depuis que l'Espagne s'est restructurée et a changé sa politique de formation, l'Espagne, maintenant, c'est un jeu de possession, c'est un jeu qui t'use. En effet, et quand tu joues contre ce genre d'équipe, que ça soit à notre époque avec avec Duga et un peu plus loin Jean-Michel, c'est des équipes qui t'usent, tu cours dans le vide, tu cours à côté du ballon, et même s'ils redoublent et qu'ils sont pas dangereux, au bout d'un moment ça peut s'ouvrir parce que il y a un petit oubli et tout ça. Donc pour moi, je pars du principe que il faut essayer de les contrer dans cette possession de balle, et que quand on les a contrés, je te renvoie à la Ligue des Nations, quand il y a eu le 5-4 sur la deuxième mi-temps, en effet, où on a réussi à les contrer. En termes de possession, on n'est pas loin, parce que on avait densifié un petit peu le milieu de terrain, un peu comme à la finale de l'Euro, où à la finale de l'Euro, rappelle-toi, la deuxième mi-temps, les Espagnols, franchement, ils sont même pas dangereux. Je crois qu'ils avaient frappé même pas une seule fois au but sur la deuxième mi-temps, et on aurait pu revenir au score parce qu'on avait densifié le milieu de terrain, et parce que je trouve que on leur chatouillait un peu les chevilles quand ils avaient le ballon. Là, je pars du principe que avec
on était
Aurélien
déséquilibré, t'as raison Jérôme, mais le déséquilibre il a été accepté là, ça y est, le déséquilibre.
Oui, c'est vrai.
Il fait partie,
oui,
mais est-ce qualité, que de notre jeu.
Est-ce que Duga, est-ce que le fait, alors bien sûr que t'as raison, je suis pas un grand fan de Tchouaméni. Alors en effet, je regarde peut-être un peu plus les performances de Tchouaméni et Koundé, qui pour moi sont pas au niveau de joueurs qui ont ce statut de joueurs importants, joueurs majeurs. Pour moi, ils sont pas dans ces statuts-là, et que pour avoir ce statut-là, il faut déjà que les paires sur le terrain, elles soient au top. Donc déjà, à partir de là, je regarde en effet les prestations de Tchouaméni, et je vous promets que même si je fais une fixette, je regarde à chaque fois ce qu'on lui demande quand tu joues à deux. Quand tu joues à deux milieux de terrain, c'est pas comme quand tu joues à trois, on est d'accord? Donc c'est pas une sentinelle qu'on attend.
Mais Olysée,
c'est
que, Olysée, c'est que,
non, mais Olysée vient décrocher. Mais Olysée, et c'est pas à toi que je vais dire le contraire, c'est un milieu offensif, très offensif, oui, voire limite un attaquant. Comme voilà, Olmo est plus un milieu de terrain pour moi que Olysée à la base. Donc après, peut-être que les rôles sont les mêmes, en effet. Mais moi, je pars du principe que quand tu joues avec Rabiot et Tchouaméni en deux milieux de terrain sur la même ligne, Tchouaméni, par moment, ce serait bien qu'il monte un petit peu d'un cran pour aller mettre une pression. C'est pas son point fort. Son point fort, il est plus de casser les attaques adverses. Il se transforme très souvent en défenseur central. Et moi, je l'accepte, il n'y a pas de problème. Mais quand tu fais ça avec Tchouaméni, en effet, Rabiot, et si tu mets Olysée un peu plus bas, je pense qu'ils vont prendre un petit bouillon en termes de possession. Et qu'on risque de, en effet, de s'épuiser. Et vous le savez très bien, pendant 45 minutes, si on mise juste sur la contre-attaque, la bonne récupération, la bonne passe, et devant, en effet, on a un trio, parce que si Olysée un peu plus bas sur le terrain, on a un trio qui peut faire la différence à chaque fois. Pas de souci. Mais pour que ce trio fasse la différence, il faut les trouver dans le bon espace et faire la bonne passe. Moi, je pars du principe que si tu cours à côté du ballon pendant une grande partie du match, au bout d'une heure de jeu, on va manquer de lucidité, parce que c'est arrivé à tous les joueurs, même à les plus grands, parce que physiquement c'est compliqué. Et faire la bonne passe quand déjà c'est pas ton point fort, en parlant de Tchouaméni, bah ça risque d'être compliqué sur l'ensemble du match. C'est ce que je pense. Après, en effet, on n'est pas parti pour. Je souhaite de tout cœur que Didier Deschamps me donne une leçon là-dessus, et que Duga et Jean-Michel pareil. On va observer le match. Peut-être que je me suis trompé dans mon analyse.
Demain,
et bien voilà. Et ben alors, j'espère juste que demain je vous dirai, en effet,
vous aviez
bravo
raison.
Didier, vous voilà. Aviez raison.
Alors Pierre, qui t'a convaincu dans ce procès?
Victoire écrasante de Jean-Michel et Christophe.
Ah, écrasante carrément.
Ah, même Jérôme, il a sa conclusion, elle veut tout dire. Non, je comprends ce que dit Jérôme, mais moi, je vais aller plus loin que ça. Moi, je préfère qu'on perde en jouant notre jeu. J'ai envie qu'on soit des champions du monde flamboyants. Et j'ai pas envie qu'on gagne la demi-finale comme on l'avait fait contre la Belgique, 1-0 à l'arrache. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'en remportant milieu de terrain, bah, déjà, on se fasse quand même défoncer. Parce que le milieu de terrain, ça changera rien. Moi, j'ai envie qu'on reste ce qu'on est. C'est-à-dire une équipe offensive. D'abord, l'Espagne, ils peuvent avoir le ballon. Ils n'arrivent pas à marquer un but contre le Cap-Vert, ni ils galèrent pour marquer un but dans tous leurs matchs. Donc même s'ils ont le ballon, déjà, pour moi, ce ne sera pas vraiment la clé du match. Qu'ils aient le ballon, tant mieux. La clé du match, ça va être l'efficacité offensive de nos attaquants, parce que Barcola, il faudra pas qu'il rate le but comme il a raté contre le Paraguay. Les transitions, évidemment. Mais pour moi, la clé du match, elle est ailleurs. Que l'Espagne ait le ballon, finalement, c'est presque acté. Là, on va devoir être bon. C'est en effet dans ce que tu dis, Jérôme. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Des transitions, marquer les buts, ça sera le plus important parce que l'Espagne, ils n'arrivent pas à marquer contre le Cap-Vert. Ils ont marqué des buts à la 90e sur leurs deux derniers matchs. Qu'ils aient le ballon, c'est pas très important. On sait qu'on aura 3-4 occasions par mi-temps. Eh ben, il va falloir en scorer une par mi-temps, je pense, à celui-là.
Pierre, excuse-moi, mais bon, t'as regardé les deux derniers matchs de l'équipe de France. On peut pas non plus dire qu'on a été spectaculaire, flamboyant.
Contre le Paraguay.
Il y a le Paraguay, on marque sur un pénal. Non, mais t'es d'accord avec moi là-dessus. Tiens, regarde. Juste pour rappeler, parce que j'écoute aussi ce qui se dit, tout le monde tombe sur Johan Micou hier, je l'ai entendu parler de, ouais. En effet, et tout le monde dit, ouais, mais lui,
ce qu'il a dit collectivement n'est pas impressionnant, mais que c'est les individualités qui font la différence, c'est le talent individuel des joueurs.
Il dit sur les deux derniers matchs, c'est ce qu'il dit. Moi, je suis assez d'accord avec cette analyse-là. Et c'est pas pour autant que, on est absolument critique sur tout et quoi que ce soit. C'est un constat. Moi, j'ai ce constat-là. Je pense qu'en effet, les quatre joueurs offensifs, ils nous ont permis, sur les matchs du premier tour, d'être spectaculaire, flamboyant. Ouais. Pas de problème.
Allez.
Depuis deux matchs, les quatre joueurs offensifs, je suis pas sûr qu'on soit dans la meilleure version de l'équipe de France.
Un grand merci à Pierre. Bon, après, le verdict est tombé.
Peut-être que je vais me tromper encore une fois.
La doublette du Gary Larquet. Merci Pierre. Bon match à toi ce soir.
Pierre, il minimise un peu les derniers résultats de l'Espagne quand même.
Et dans un instant, allô Jérôme, on va retourner sur les routes du Tour de France.
Moi, j'ai gagné.
Au Lioran, retrouver un coureur, Benjamin Thomas, coureur Cofidis, qui va nous raconter.
Allez, Benji.
Comment le peloton va vivre cette demi-finale. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h48 sur RMC, les 10 dernières minutes de la première heure. Mais vous inquiétez pas, après 19h, on est de retour, on est là jusqu'à 20h. On vous dit tout sur cette demi-finale France-Espagne. On va vibrer ce soir, 21h, avec Christophe Dugarry, avec Jean-Michel Larquet, avec Benoît Boutron. Après 19h, Benoît.
Ah ben on vous attend, vous, les anciens internationaux français, Dugarry, Larquet, Roten. Comment neutraliser Lamine Yamal ce soir, 32-16, pour participer au débat?
On aurait dû prendre un défenseur.
Dans un instant, on va retourner sur les routes du Tour, retrouver Benjamin Thomas qui nous attend.
On aurait dû appeler Eric Dimeco, t'as raison.
Ouais, ou Manu Petit. Manu Petit.
Ouais. Rappelle-toi, quand il a joué arrière-gauche, c'était bien.
C'est vrai. Et tout de suite, allons à Toulouse, parce que Jean-Wilfried Forquest nous y attend. Jean-Wilfried qui est dans une fan zone à Toulouse. Salut Jean-Wilfried.
Salut les amis, bonsoir à tous, je suis au bar la Rotonde, ici en plein centre-ville de Toulouse, sur les boulevards. C'est pour ça que vous entendez peut-être des véhicules, il y a un peu de circulation. Tout le monde est prêt pour la demi-finale, on a mis les maillots bleus, on commence à arriver sur la terrasse de Théo. Bonjour Théo.
Et bonjour.
Et vous êtes optimiste pour ce match ou pas?
Très optimiste, on a une belle équipe avec d'excellents joueurs.
Et alors évidemment, la France va gagner ou pas?
La France va gagner avec un beau football, un petit but de Upamecano et Kylian Mbappé.
Ah carrément, un défenseur qui marque?
Bien sûr, sur corner.
Voilà, il est optimiste. Petit pronostic de Théo, le serveur du bar ici. On est en train de tout organiser. Il y a une centaine de personnes qui sont attendues. On a disposé les tables juste devant l'écran géant ici sur le boulevard de Strasbourg. Et les autres cafés devraient afficher complet également pour cette belle affiche entre les Français et les Espagnols.
Merci Jean-Wilfried, ça va être merci la fête à Toulouse. On espère que la victoire sera au rendez-vous pour l'équipe de France face à l'Espagne. Allez tout de suite, direction les routes du Tour de France.
RMC, Roten sans flamme.
Le premier champion olympique français sur la piste depuis Sydney en 2000 s'appelle Benjamin Thomas, champion olympique olympique.
Quelle victoire
de Benjamin Thomas.
Hello Jérôme.
Et oui, un champion olympique avec nous en direct du Lioran. C'était la 10e étape aujourd'hui remportée par Tadej Pogacar. Enfin champion,
Enfin champion. Ouais.
Pogacar s'est imposé la belle 3e place de notre Français Paul Sexas.
Pogacar, il faut qu'il arrête avec son moteur.
Ah bah Pogacar, c'était impressionnant. Accueillons donc Benjamin Thomas pour savoir comment on va vivre ce soir la demi-finale de Coupe du Monde, Jérôme.
Salut Benjamin.
Bonjour, bonjour à tous.
Salut Benjamin, bienvenue. Bon,
Benjamin, ça va? Déjà, t'as récupéré de l'étape?
Ouais, ça va. Je suis parti dans l'échappée au début, puis après, à 60 km de l'arrivée, on s'est fait croiser par le train Pogacar. Et ouais, non, c'était une journée éprouvante, hein, mais une belle journée pour un 14 juillet.
Bon, écoute, en tout cas, ça fait toujours plaisir de voir des Français devant, même si là, ça n'a pas duré longtemps. En effet, t'as la machine derrière. Donc, écoute, on va parler un peu de foot. J'imagine que tu vas regarder le match ce soir.
Ouais. On dort à Clermont-Ferrand ce soir, donc je pense qu'on va s'installer on va s'installer dans le resto de l'hôtel. Il y a une grande télé, je crois, qui est prévue. Donc on va regarder ça. Et puis on a du staff aussi espagnol, un deux coureurs espagnols dans l'équipe. Donc on va suivre ça. Ouais, ça va chauffer un peu ce soir.
Est-ce que ça chambre entre vous un peu?
Ah ouais, ça a déjà commencé. On a le chauffeur de bus, il est espagnol, il nous a dit si les Espagnols ils passent pas, demain vous allez au bus, vous allez au départ à pied.
Bon, ouais, c'est magnifique. Ah bah oui, bah bon, on parle de foot. J'imagine que dans un vestiaire de cyclistes, il y a une excitation particulière. Alors il y a le chambrage bien sûr, mais est-ce que vous avez le temps quand même à travers le Tour de France de vivre cette Coupe du Monde à fond?
Ouais, non, on la suit. On est à la 10e étape, mais ça fait presque déjà plus de 2 semaines qu'on vit ensemble et qu'on a regardé les matchs. On a voilà une équipe française, mais on a aussi des coureurs espagnols, des coureurs belges, du staff d'un peu tous les pays. Donc chacun avait ses matchs, ses soirées. Et puis bah là on se retrouve, je pense, France-Espagne, et c'est la finale avant l'heure. On a hâte de la suivre. En plus c'est un horaire qui nous permet de la suivre sans aller se coucher trop tard. Donc ouais, c'est top.
Ah ouais.
Et Benjamin, est-ce qu'il y a des coureurs qui n'aiment pas du tout le foot, qui n'ont rien à faire et qui vont aller se coucher plutôt que de regarder une demi-finale de Coupe du Monde?
Ah non, je pense pas ce soir, non. Peut-être un ou deux Belges.
Les Belges, bien sûr.
Ouais, mais ils ont fait grouper tôt aujourd'hui. Ils étaient de nos sprinters, ils étaient vraiment fatigués.
Ils sont cuits,
alors. Ouais, et demain il y a sprint, donc je pense qu'ils vont. Ils vont regarder le résultat demain matin au réveil et là ils sont, je pense qu'ils sont, morts. Ils ont besoin de récupérer un peu.
Benjamin, le programme de la soirée. À quelle heure vous dînez?
Là on est en transfert, on est en escorte avec la police qui nous ramène à Clermont-Ferrand. Donc on a encore une bonne heure de route et après on va le massage et le repas. On va manger devant le pendant la Marseillaise parce que donc. Après, on va suivre le match tranquillement pendant le repas.
Benjamin, c'est quoi ton pronostic pour ce soir?
On m'a demandé déjà ce matin au départ de l'étape. J'ai dit 3-2 pour la France, bien sûr. Et je pense que ça va être... j'ai entendu avant un but d'Upamecano, pronostic à Toulouse, mais j'y crois pas trop. On n'a pas forcément vu des situations dangereuses sur corner depuis le début de la Coupe du Monde, donc il y avait plus nos attaquants, pour pas changer, Kylian qui m'a doublé et Dembélé qui vient débloquer la situation quand il y aura 2-2.
C'est dingue d'être meilleur que Pascal Olmeta dans l'analyse. Franchement, c'est étonnant.
C'est pas si dingue que ça, sincèrement. Après, surtout après avoir fait 200 bornes, le mec, il a meilleure analyse que.
Ah ouais. Mais Pascal, on devrait le mettre au commentaire du Tour de France. Ça peut être pas mal. Non, mais Benjamin, on compte sur toi. Demain matin, si on est qualifié pour la finale, on veut que tu réveilles Yoann Izaguirre et Alex Aramburu avec la Marseillaise, quoi. Que tu chambres un peu toute la journée.
Sûr, non, mais quand ils arrivent dans le bus, juste avant le départ de l'étape, quand ils montent dans le bus sur la Marseillaise à France, c'était sûr.
Ah ben bah voilà, c'est ça qu'on veut.
C'est sûr. Après, les pronostics, c'est plus facile à faire en vélo qu'en foot. Hein.
Là, bon, alors c'est
quand
alors Benjamin, alors c'est quand que tu gagnes l'étape?
Ouais, voilà.
Ah non, ouais, je vais pas tout dévoiler, mais on a deux sprints qui arrivent, donc on a deux sprints qui arrivent, donc c'est des opportunités pour nous et moi je vais essayer d'échapper cette semaine et sinon la semaine prochaine il y a une belle étape, la 17e étape vers Voiron qui sera, j'espère, pour l'échapper. Et là on va faire tapis, comme on dit.
Et voilà, magnifique. Écoute, merci beaucoup Benjamin Thomas.
Merci Benjamin. Bon courage
olympique de l'Omnium. Cycliste sur piste au départ, champion olympique à Paris en 2024 et désormais dans le peloton du Tour de France. Écoute, dans l'équipe Cofidis.
Bravo encore et merci d'avoir
participé. Merci Benjamin, c'était très sympa.
Bon courage.
Avec
bon
plaisir.
Match ce soir. Bye bye.
Allez, merci, salut.
Bon massacre. 18h56 sur RMC. On embrasse Pascal Olmeta hein, qui doit nous écouter, qui doit être très content des réflexions.
Ouais, même Steve Savidan m'a dit vous allez quand même me garder.
Non, prendre Benjamin.
Benjamin, ouais.
Allez, à 19h, Rotten se chauffe. On est toujours en direct de la brasserie Flora dans le 9e arrondissement de Paris. Comment neutraliser la mine Yamal du gars Jean-Michel et Jérôme vont tout nous dire.
On a les clés. Sur RMC.
RMC. jusqu'à 20h. Roten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Vous avez aimé la première partie ? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Roten sans flamme.